Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine sur France Culture. Chacun se programme si facilement héros qu'on serait presque prêt à faire l'éloge du conformisme et de la soumission rien que pour leur dire non. C'est sur ce constat un peu provocant que le philosophe Vincent Delecroix, notre invité à partir de 12h55, ouvre sa réflexion et fonde son appel à refonder, repenser le non dans un essai à paraître aux éditions Autrement. Mais d'abord, c'est un chef un peu à part dans le paysage, claveciniste américain, William Christie est venu en France dépoussiérer notre répertoire baroque avec l'ensemble des arts florissants qu'il a fondés. Aujourd'hui, en tandem avec le metteur en scène Robert Carsen, il propose sa version de l'opéra des Gueux, le Beggar's Opera de John Gay, au Bouffe du Nord à Paris, avant une tournée partout en France. On a profité des répétitions pour le retrouver sur place et lui poser quelques questions à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
Six gorgeous girls and all mine. Let's get this party started!
Youth the season made for joys, love is just our duty. Only she who love employs well deserves her beauty. Let's make hay while we may. Beauty to flower despite the decay.
It's the season, made for joy. Love is just our duty. Let us drink and dance today. Ours is not tomorrow.
With love sun goes away and brings only sorrow.
Dance and sing it
Beggar's Opera ou Opéra des Gueux, un ballade opéra du 18e à partir duquel Kurt Weill et Bertolt Brecht ont tissé leur opéra de 4 sous. Sur scène, une troupe, ou plutôt une bande de comédiens britanniques, puisque l'action se déroule dans les bas-fonds de Londres, un décor en carton superposé. Côté musique, un ensemble resserré, avec notamment deux violons, une contrebasse, un traverso, un luth et le chef au clavecin, William Christie, notre invité jusqu'à 12h30. Bonjour William Christie.
Bonjour.
J'avais une question à vous poser d'abord sur ce lieu, les Bouffes du Nord. Vous êtes fils d'architecte. Quelle est la particularité de cet endroit? Pourquoi vous avez eu envie d'y créer votre Beggar's Opera?
Mais je crois que c'est très évident. Nous avons maintenant un théâtre qui se trouve depuis un nombre d'années dans un quartier un tout petit peu populaire, pour ne pas dire très populaire, une vieille salle. Autrefois une salle assez noble en fait, mais qui est tombée dans une sorte de vétusté. Est-ce que les bouffes correspondent à un goût?
Ils correspondaient en tout cas bien aux Beggar's Opera.
Évidemment. Mm-hmm. Pour cette actualité qui est de Beggar's Opera, on peut vraiment imaginer mieux. Et pas uniquement puisque c'est un théâtre d'une allure un peu spéciale, mais parce que c'est un petit théâtre. Et nous avons essayé de vendre ce spectacle aux lieux qui ne sont pas trop grands. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre où l'intimité, la proximité comédien et public est importante.
Le Beggar's Opera de John Gay, c'est l'opéra des Gueux qui a été composé en 1728. Qu'est-ce qui fait que ce Beggar's Opera n'est pas vraiment un opéra?
En effet, on oublie, et les Français eux-mêmes oublient, que la forme est française. C'est une forme de parodie, une forme de musique populaire qui est née dans les dernières années du XVIIe siècle pour les foires parisiennes, où on mélangeait les tubes, le livre, mais le livre qui est descendu dans la rue, qui était assez souvent le cas, mélangé avec les mélodies populaires et servi dans un contexte de dialogue, Donc une pièce ponctuée par les chansonnettes, les petites airs populaires. Gay connaissait cette tradition française. Pourquoi et comment? Parce que Londres était envahie par les Français. Il y avait des peintres, des sculpteurs, mais surtout les musiciens et les comédiens français qui chantaient, qui déclamaient pour un public londonien. Donc l'inspiration française pour John Gay était là, sur place. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement eu l'idée de créer une pièce un tout petit peu semblable, mais avec l'emphase très très forte, et même parfois exagérée, sur la politique actuelle. Et en face, on fait cette comédie où les propos, disons, les plus importants, c'est tout simplement les propos qui lient à la corruption avec la classe bien basse. La classe fait des voyous, fait des voleurs, fait le crime organisé avec l'établissement, c'est-à-dire fait les gens qui gouvernaient le pays. Et une sorte de moralité où, la vie la plus corrompue, la plus sale, n'est-ce pas, se partage entre ceux au pouvoir, en haut, et les petits mafieux, n'est-ce pas, la canaille, irrésistible, n'est-ce pas. Et là, ponctué par ces airs que tout le monde connaissait. Et non seulement les airs, les folk songs, les mélodies populaires, mais les airs comme Lully en France, les airs d'Handel ou Bononcini, mais les airs qui étaient chantonnés, sifflés même par toute la populace.
Conte satirique, on peut le dire comme ça aussi, mais qui résonne avec notre époque. Il y avait déjà, à ce moment-là, au 18e, des débats entre le libéralisme ou le conservatisme qui pouvaient avoir lieu en Angleterre. On les retrouve évidemment formulés différemment aujourd'hui, mais on entend bien que ce Beggar's Opera fait aussi, à travers les époques, une critique du monde actuel entre la cupidité marchande, qu'on dirait capitaliste aujourd'hui, et la question de l'injustice sociale. Vous avez cherché à l'ancrer dans une époque, ce Beggar's Opera, où il traverse le temps.
Je suis très friand de mon travail avec Robert Carson, car en effet, ce que vous venez de dire est un sujet de discussion pour nous deux, et ça fait partie de notre esthétique partagée, ou d'actualiser une musique ancienne, dans le cas de l'opéra français ou l'opéra italien, l'opéra tout court. Ça, c'est une spécialité de Robert Carson et William Christie. Si moi, j'ai des périmètres à respecter, Robert a des soucis de compatibilité avec moi, la même esthétique. On peut, par exemple, meubler la scène avec les meubles de Lalanne ou Memphis à Milan, mais en jouant dans la fosse, une musique confiée aux instruments anciens. Et en effet, l'esthétique est très compatible. Alors, pour répondre, ça, c'est le plan purement visuel et sonore. Est-ce que l'actualité de cette pièce dépend à une révision du texte ou de la musique afin que le public d'aujourd'hui comprenne davantage? Oui et non. On ne peut pas, par exemple, aller trop loin musicalement. C'est-à-dire de prendre un joli petit air, une petite mélodie comme Green Sleeves, ou, et de confier ça à un synthétiseur, enfin, ou une bande de rock. Oui, ça se fait, mais c'est un tout petit peu exagéré. Dans ce cas-là, je préférais tout simplement qu'on jette la musique d'origine dans la poubelle et on commence, comme disait quelqu'un comme Kurt Weill. Oui.
Il avait dit « on jette tout ».
Jeter à la poubelle, peut-être non, mais il voulait pas se servir même des mélodies dans un contexte d'orchestration nouvelle. Voilà. Là, j'aime cette musique. Comment l'actualiser? Si Robert situe cette comédie dans les bas-fonds d'un Londres d'aujourd'hui, ce serait très difficile musicalement. Mais qu'est-ce qui lie les deux choses? C'est ça mon argument. Est-ce que je peux rester avec un matériel qui a maintenant 3 siècles, tandis que Robert trouve nécessaire d'actualiser le texte en changeant tout simplement le texte parfois, d'ajouter des éléments qui sont franchement fin de 20e, début de 20e siècle, 21e siècle. Je crois que ce qui nous lie est très simple. J'ai décidé de faire ça, musicalement, pour la toute première fois, avec une recherche en ce qui concerne la spontanéité, l'improvisation, une musique, si vous voulez, qui a peut-être une plus proche parenté à un jazzman comme Duke Ellington il y a 50, 75 ans, n'est-ce pas, où ces musiciens étaient tellement familiers avec son style, qui pouvait improviser, qu'il n'y avait pas de partition. Quelques vagues esquisses, n'est-ce pas? C'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Si quelqu'un voulait que je lui montre ma partition, par exemple, aujourd'hui ou demain, après-demain, la réponse, ce serait « mais je ne peux pas, parce que rien n'est écrit ». C'est-à-dire fait que le public qui arrive au bout du Nord vont écouter quelque chose qui, j'espère, qui va sonner comme si c'était écrit avant-hier. En tout cas, le fait qu'on improvise fait que je donne la possibilité à tous les instrumentistes de s'exprimer comme ça, dans un orchestre d'improvisateurs. C'est ça qui va nous lier avec l'actualité que cherche Robert Carson et notre dramaturge Ian Burton.
The Big Girls Opera, actuellement sur la scène des Bouffes du Nord à Paris, à voir jusqu'au 3 mai. Le chef d'orchestre qui a conçu musicalement cette adaptation de l'opéra des Gueux est notre invité jusqu'à midi et demi, William Christie.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Comment conserver ce souffle de la nouveauté? C'est la question que vous vous posez depuis 40 ans, William Christie, avec les arts florissants que vous avez fondés, et on peut le rapporter une fois encore à cette pièce. Vous avez quand même retrouvé une partie de la partition originale. Il paraît qu'elle n'existe plus du tout en intégralité. Il y a eu quand même un travail de fouille, de défrichage musical, presque archéologique pour reprendre votre terme, dans la partition. Comment vous avez procédé?
Vous parlez un peu des Beggars.
Oui, sur le Beggars.
Mais, vous savez, c'est un problème qui n'est pas un problème. Nous avons une sorte de trame. C'est quoi? C'est une édition gravée, 3e édition, où vous avez la ligne mélodique. Dont 9 dixièmes fait des cas, c'est pour une seule voix, et puis une ligne de basse. C'est-à-dire fait que, en théorie, on pourrait effectivement faire des économies absolument extraordinaires en limitant l'orchestre à un claveciniste, un théorbiste, peut-être un violoncelle et une contrebasse. Mais nous savons, par contre, que malgré cette pauvreté apparente dans la seule partition qui existe, il y avait un orchestre. Un orchestre qui jouait une ouverture. Car M. Gay a demandé à un pédant, à un Allemand compétent, mais pas plus, musicalement parlant, un certain nommé Pépouche, de composer une ouverture dans le style, le plus pur style indélien. Pourquoi ? Peut-être pour tout simplement marquer les contrastes, pour pouvoir snobber M. Handel en suivant cette ouverture avec une musique qui n'était jamais entendue par quelqu'un qui fréquentait un opéra sérieux de Handel. Mais en tout cas, nous avons une pièce qui d'abord qui était faite avec un budget très restreint. Et nous avons une pièce qui a vécu des remaniements presque tous les mois. Quelqu'un tombe malade, quelqu'un arrive dans l'orchestre. Voilà. Curieusement, nous avons le même problème. Car en effet, on a vendu ce spectacle un peu partout. Il y a peut-être une quarantaine de représentations qui sont prévues. Et vous imaginez que personne aux Arts Florissants va pouvoir faire les 40 représentations en totalité. Donc il y aura le même problème qui existait à l'époque. Comment faire succéder un violoniste qui ne peut pas faire les dates au mois d'octobre? Et ça peut se faire peut-être plus facilement puisque le nombre d'exécutants d'un orchestre était surtout très restreint. À l'époque, cette ouverture qui, on aurait pu imaginer, avec Handel, il y aurait peut-être une quarantaine de personnes dans la fosse. Mais on peut faire la même musique, ça sonne un petit peu pauvre, mais c'est une œuvre pauvre. Et qui a voulu être une œuvre pauvre. L'ouverture, donc, est jouée par 7 ou 8 instruments.
Que vous connaissez bien William Christie, que vous avez plusieurs fois dirigé encore en ce début d'année à l'Opéra de Paris avec son opéra Jephtha, sans oublier Orlando, qui signait une de vos premières collaborations en 94 avec Robert Carsen. C'était pas la toute première, c'était une des premières.
C'était parmi les premières. Orlando était aussi une œuvre donnée à cette époque-là aussi. Ah.
Sur cette coopération, cette coproduction de vous, William Christie, avec Robert Carsen, on peut dire, pour simplifier, que c'est un peu l'alliance aussi du baroque et du music-hall, de la baguette et des plumes ou des claquettes, deux tempéraments, les vôtres, qui sont aussi complémentaires que cette esthétique que vous évoquiez à l'instant. Vous êtes très différents l'un et l'autre.
Mais oui et non. Monsieur Robert aussi est un garçon extrêmement polymathe. Extrêmement varié dans ses goûts. Il y a des choses qui nous lient quand même, des choses qui sont partagées, les attitudes, et peut-être les moyens et les façons, n'est-ce pas, de s'exprimer devant les autres. Robert est un garçon qui réfléchit beaucoup, qui laisse une grande liberté, mais qui est toujours là pour contrôler, mais dans le bon sens. Il a une idée esthétique de son art, une ligne qui est facile à comprendre pour les autres. Notre première rencontre était assez touchante dans un sens. Robert est originaire de Toronto, qui est une faible distance, si on traverse le grand lac Erie, de ma ville natale de Buffalo. Et chose extraordinaire, c'est que mes parents fréquentaient un festival d'été, le Shaw Festival, à Niagara-on-the-Lake, qui était fondé par le père de Robert. Et ils sont devenus amis, papa et maman, et le papa et maman de Robert. Et un jour, mon père m'écrit un petit mot, et j'étais en France. Apparemment, le fils de Walter, donc le papa de Robert, il a un fils qui commence à avoir une belle renommée comme metteur en scène en Europe. Bon. Et les hasards dans la vie. Louis Herlaut me téléphone peu après en disant « Écoutez, il y a un garçon, on parle beaucoup de lui, il a fait ses premiers pas en Angleterre, à Glyndebourne. Écoutez, je vais vous présenter ce garçon, et si vous entendez bien, mais voilà, je voudrais un spectacle signé par vous deux. » Voilà, le début. Et j'ai passé des longs moments avec Robert, avec ses parents, avec ses amis. Mes amis et ses amis sont devenus ses amis et mes amis. Et on a, je crois, forgé une amitié qui est très durable. Et on se renouvelle. Les dernières productions m'ont énormément plu. Il s'entend merveilleusement bien avec mes musiciens. Il est, contrairement à nombre de metteurs en scène de l'opéra, il aime la musique. Et il connaît la musique. Et il peut vraiment demander aux chanteurs et l'orchestre, n'est-ce pas, un nombre de choses très pertinentes à son art à lui. Non, peut-être William Fest, c'est un tout petit peu lent parce que je conçois cette scène mais tout dernièrement, enfin, cet après-midi. On a eu un petit différend. Ça va se résoudre. Et c'était purement musical. Sa critique, ça j'adore.
William Christie, le baroque que vous avez contribué à faire revivre, continue à séduire de jeunes chanteurs ici encore en France. Pour preuve, vous avez créé une académie en 2002 qui donne la parole à de jeunes voix. En sont sorties notamment Léa Desandré et Sonia Yancheva. À quel type de voix êtes-vous, vous, le plus sensible, William Christie ?
Mais j'ai absolument pas de préférence. Il n'y a pas un type de voix, enfin, n'est-ce pas, que je favorise. Quelqu'un me pose cette question, fait, qui est extrêmement difficile. Mais si vous avez eu vraiment, quel est votre compositeur préféré? Ou quelle est votre pièce de musique que, mais ça dépend du jour. Ça dépend, en fait, de l'époque. Ça dépend, oui.
Ça dépend des jours ou ça dépend des périodes dans votre vie? Parce que certains font peut-être
deux.
Plus écho.
Les deux. Enfin, l'autre jour, je me suis dit, oh, Schumann. Et j'avais une sorte de petite fantaisie, une sorte de petite rêverie. J'étais avec un piano à la campagne. Et j'ai essayé, effectivement, de retrouver, effectivement, un compositeur que je connaissais parce que j'étais pianiste très jeune. Bon, c'était une sorte de rêverie qui a duré peut-être quelques heures. Mais il y a des moments où Monteverdi, pour moi, c'est tout ce que je veux entendre. Donc, je suis très éclectique.
Une dernière question, William Christie. Vous êtes venu au baroque par les œuvres de Couperin, je crois, principalement, quand vous étiez aux États-Unis. C'est votre grand-mère qui vous faisait écouter
beaucoup de musique.
Oui, mais
ça, c'était ma passion, enfin, la révélation. Mais
ah, bah oui,
j'étais, c'est important. J'étais bercé dans une musique classique par ma mère, et qui aurait pu faire une belle carrière elle-même, enfin, s'il n'avait pas marié mon père et eu des enfants, et voilà.
Vous l'avez vengé.
Mais c'est-à-dire que c'était de mon inspiration aussi. Ben, je lui dois énormément de choses. Mais Kupra, non, c'est un événement important pour moi dans ma jeunesse. Un disque que grand-mère avait trouvé à Buffalo, sorti par Erato, je me souviens. Les Leçons de ténèbres de François Couperin, dirigé par Laurence Boulet, que j'ai connu bien des années après, comme collègue, et avec Nadine Sautreau, enfin, ces noms, enfin, n'est-ce pas, sont gravés sur la mémoire. Et voilà, c'était une sorte de révélation.
Vous n'avez depuis cessé de réveiller cette musique et ce répertoire baroque endormi en France.
C'est tout simplement, j'ai écouté une musique que j'avais ignorée totalement avant. À l'âge de 12 ans, c'est normal, ou de 13 ans.
Et beaucoup ici même l'ignoraient avant votre arrivée. C'est-à-dire que vous nous avez aussi fait redécouvrir ce répertoire qui a depuis avec vous, et c'est cette question que je voulais vous poser, à travers les arts florissants aussi, énormément voyagé. Est-ce qu'aujourd'hui, ce répertoire baroque français, c'est en enrichi de ses voyages, de ses allers-retours, ou est-ce qu'il est resté le même?
J'ai des constantes dans ma vie, c'est-à-dire que je me souviens, comme je me suis dit après un concert de Ralph Kirkpatrick, quand j'avais un peu plus, j'avais peut-être de 17 ou 18 ans, voilà un moment important où c'est comme si le temps se trouvait suspendu. J'ai, oui, un état de grâce, n'est-ce pas? En écoutant Couperin pour la première fois, en écoutant le clavecin pour la toute première fois aussi, en écoutant un grand interprète qui jouait Bach avec Ralph Patrick, ces moments, je peux les vivre et revivre, n'est-ce pas, jusqu'à ma mort. Comme si c'était, ouf, là, un moment décisif dans mon existence. Heureusement, ce genre de moments de grâce, ma vie est ponctuée par ce genre de bonheur, de moments presque mystiques. Oui. Alors, maintenant je voyage avec la musique française, qui est un constant, comme je voyage avec Mozart, comme je voyage aussi dans ma vie avec Monteverdi, avec Rameau. Et j'adore cette possibilité de passer de l'un à l'autre, de revenir. C'est une chance inimaginable. C'est grâce à une époque où ces compositeurs maintenant sont appréciés, donc c'est un peu les jouer, les faire chanter un peu partout dans le monde. Ça, c'est aussi un immense bonheur.
Merci beaucoup, William Christie. Merci mille fois.
Merci à vous.